Bruno à cause des nombreux Bruno. Pour qu'elle en soit ta fête. Et puis, Bethléem. Parce que Bethléem, dit tout le temps, nous pensons constamment à la communauté Saint-Jean. Est-ce que la communauté Saint-Jean pense constamment à nous? Alors je pourrais dire que le jour de Saint-Bruno, on pense très fort. Pas hésiter de réfléchir et
c'est plus que ça pour nous. Hein. Quand on parle de l'inculturation, il y aurait quelque chose d'analogue à faire. Le milieu théologique d'aujourd'hui. Alors, les influences dominantes de l'islam, du protestantisme, thank you. l'archéologie partie un peu dans tous les sens. 14e et 15e siècle, d'une certaine manière, ont fait des essais sur toute manière de faire la théologie. Et je ne crois pas qu'on a inventé beaucoup de choses depuis. C'est très curieux, le 14e siècle, enfin, il va être extrêmement intéressant, mais très difficile. On est un théologien comme Occam, c'est quand même quelque chose d'extrême. C'est quelque chose d'extrême. André de Murat, qui a beaucoup étudié Occam, et qui était, lui, calviniste, et qui s'est converti à l'Église catholique, donc il connaît assez bien Luther aussi. Dîner, Occam va bien plus loin que Luther. Au point de vue conception erronée de la théologie, il est resté dans l'Église. Je le dis, ça va beaucoup plus loin. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que la structure de pensée d'Occam, qui est très proche de celle de Luther, ou celle de Luther très proche de la sienne, c'est plus juste, il va beaucoup plus loin parce qu'il est plus génial intellectuellement. C'est un renouveau au niveau logique. Et c'est la logique qui prend tout. Seul quelqu'un comme Occam n'hésite pas de dire que la métaphysique se ramène à la logique. Alors voyez ce que ça peut faire en une théologie purement logique. Alors, en face de cette anarchie théologique moderne, où il y a des choses extrêmement intéressantes de renouveau, je crois que c'est trop simplifié de dire ce que Rahner dit. La théologie moderne, le tournant de la théologie moderne, c'est qu'on remplace la métaphysique par l'anthropologie. L'anthropologie, vous savez bien quel est le philosophe premier qui a parlé d'anthropologie. C'est Kant. C'est Kant. Avant Kant, le mot anthropologie n'existe pas au niveau des philosophes. C'est Kant qui l'a introduit en philosophie. Et alors, au fond, dire que la métaphysique est terminée, le grand enterrement de la métaphysique Heidegger. Enterrement de première classe, avec une grosse caisse, tout ce qu'on veut. La métaphysique est terminée, dit Heidegger. Il faut l'ontologie fondamentale. Donc, il y a une mutation de la métaphysique, qui est la métaphysique de Wolff. Métaphysique extrêmement marquée par la logique, qui est une dialectique, qui est vraiment le point de vue scolastique dans ce qu'il y a de plus décadent, mais qui a eu une très grosse influence et qui continue d'avoir une très grosse influence. Parce que beaucoup de ce qui se disent thomistes aujourd'hui sont wolffiens. C'est du Wolff. Yeah. témoin intéressant et important. Et Balthazar, lui, disait que Thomas d'Aquin reste nécessaire à la formation théologique. Donc il allait plus loin. Parce que Balthazar a réagi beaucoup plus que le père Congar en face de ses abus d'aujourd'hui. Oui, c'est très bien, c'est des réactions intéressantes à voir et à sentir. Mais c'est pas positif. Si on garde Thomas d'Aquin comme un maître, on voit que Thomas d'Aquin est un maître pour la théologie scientifique. Et la théologie scientifique demeure l'axe nécessaire dans le développement de la théologie. Vous voyez, on pourrait dire ceci, hein, si je cherchais à voir l'évolution ou la transformation de la théologie progressivement dans l'Église. Donc je vous renvoie à l'article du père Congar dans le dictionnaire théologique sur la théologie. On voit qu'au point de départ, il y a de multiples manières de concevoir la théologie. Et ce qui est impressionnant, c'est que on voit de la spiritualité, une théologie mystique, une théologie de l'Église, une théologie de la parole de Dieu, une théologie qui cherche à comprendre et à enseigner. C'est une doctrine, doctrine en sacrant. Doctrine, c'est ce qu'on enseigne. C'est ça que ça veut dire. Et donc la théologie implique tout ça, avec des accents différents. Mais dans Saint-Augustin, quand vous lisez Saint-Augustin, le traité par exemple de De Trinitate, vous voyez des éléments d'ordre philosophie du vivant, métaphysique, sur le bien, sur l'homme, et des éléments de psychologique. Tout est très mêlé. Je crois que Thomas d'Aquin représente dans l'économie de développement de la théologie, quelque chose de capital. Et je crois que ça, tout théologien, tout historien honnête de la théologie doit le reconnaître. Il découvre ce qui, avant lui, n'avait pas été dit. Une théologie scientifique qui va chercher un ordre de sagesse dans l'intelligibilité de la révélation. La révélation implique un enseignement. La révélation implique une doctrine. La révélation implique donc une communication d'une intelligibilité du mystère de Dieu. Et la doctrine sacra Saint Thomas se réfère, qui est le patrimoine de tous les pères de l'Église et des théologiens avant Saint Thomas. Ça représente un patrimoine extrêmement riche. Il faut de temps en temps y puiser, et même je dirais couramment y puiser. On ne peut pas quitter Saint Augustin, on ne peut pas quitter les Cappadociens. Il faut, dans sa vie et dans sa formation théologique, avoir lu au moins quelques livres de Saint-Augustin, un ou deux pères cappadociens, pour se faire une idée de ce que représente ce patrimoine théologique de l'Église. Ça fait partie du patrimoine. Dans ce patrimoine, Saint Thomas apporte quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dira que Saint Thomas est un révolutionnaire. C'est l'expression du Bergelieu. Je l'aime pas, mais je vous l'ai dit à titre historique. Parce que ce n'est pas un révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est celui qui renverse tout. La question de l'ordre. Saint Thomas, au contraire, veut mettre de l'ordre. C'est pas tout à fait un révolutionnaire. Le propre du sage d'ordonner. Découvrir dans C'est indispensable pour le connaître. Et saint Thomas, avant, a donné la somme contre les gentils, qui est aussi une œuvre capitale. Avant, c'est le commentaire des sentences, qui est une œuvre de jeunesse, moins capitale. Mais si vous voulez connaître un peu saint Thomas, il faut toujours regarder la somme, les commentaires scripturaires et le contre gentilesse. Et dans la mesure où on peut, les disputationes, les questions disputées. Et donc c'est un patrimoine très riche. Et avant de juger saint Thomas, il faudrait connaître parfaitement ce patrimoine. Parce que ceux qui jugent saint Thomas en fonction de la somme, avez-vous lu les commentaires scripturaires? Ah non, ben, pourquoi juger saint Thomas? Avez-vous lu le contre gentiles? Ah non. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas le droit. N'avoir le droit de critiquer quelqu'un en lisant uniquement une œuvre. Parce que vous ne pouvez pas la comprendre parfaitement si vous ne voyez pas l'ensemble. Oui. Donc, il faut bien comprendre ça dans saint Thomas. Ce que saint Thomas apporte à l'Église, comme serviteur de l'Église, la théologie scientifique. Ça, c'est son œuvre propre. La théologie scientifique, pour saint Thomas, a ce caractère particulier qu'elle cherche la nécessité dans l'intelligibilité de ce qui nous est révélé et d'ordonner le donné révélé. C'est net, ça, et ça doit être très net. Et ceci demeure. Je ne crois pas qu'on a ajouté beaucoup à l'intelligibilité de l'écriture depuis saint Thomas. Je ne crois pas. Des petites choses particulières, oui, des petites choses particulières. Mais pour l'ensemble, je ne crois pas. Mais il faut toujours, toujours, et quand vous entendez critiquer saint Thomas, poser la question, qu'est-ce que saint Thomas a voulu faire? Alors, on dit, ben, ils ne savent pas. On dit, une théologie scientifique. Alors, pour certains, la théologie scientifique est une hérésie. Alors, il faut répondre que ce n'est pas une hérésie. Puisque l'Église a accepté. L'Église n'a jamais condamné saint Thomas. C'est la Sorbonne de Paris qui a condamné saint Thomas. Parce qu'elle était dépassée. Alors, elle n'a pas accepté qu'il y ait un théologien religieux qui puisse donner quelque chose qui ne soit pas l'enseignement classique condamné. Et saint Thomas a donné un enseignement qui n'était pas l'enseignement classique. Et la condamnation à la Sorbonne, de la Sorbonne a joué un très grand rôle pour ensuite les disciples de Thomas d'Aquin. Et puis on a vu progressivement que les condamnations de Sorbonne n'étaient pas justes. C'était un regard trop rapide. Et qu'il n'y avait rien de contradiction à l'Église dans ce que disait saint Thomas. À ce point de vue-là, les condamnations de la Sorbonne sont très intéressantes, parce qu'elles sont obligées de regarder de façon plus proche que les pointes avancées de saint Thomas. Elles n'étaient pas du tout en contradiction avec tout le patrimoine de l'Église. L'Église a toujours considéré Thomas d'Aquin comme le théologien commun. Alors, j'ai dit comme le théologien qui nous apprend à découvrir ce qu'est la théologie. L'axe de la théologie. Cependant, réduire toute la théologie à Thomas d'Aquin, comme le font certains thomistes, cela me semble terriblement étroit. Parce que Thomas d'Aquin lui-même reconnaît qu'il y a une théologie symbolique, qu'il y a une théologie mystique. La théologie scientifique de saint Thomas ne prend dans l'écriture que ce qui est enseignable et enseignable d'une manière scientifique. Donc, il réduit le donné révélé à le donné révélé qui enseigne. Le donné révélé a une richesse beaucoup plus grande que ça. Et ça, c'est très très important de bien comprendre l'intention de saint Thomas. Le donné révélé implique un enseignement. Le donné révélé implique une recherche de la vérité, c'est sûr. livre. Mais il y a quelque chose de plus. Alors, je vous donne un exemple, tout simplement, qui est quand même très significatif. Dans Saint Jean, vous voyez tous les « je suis » du Christ. Cela fait partie directement de la révélation et du mystère de la personne du Christ.
Alors,
autre chose qu'il faut élaborer au-delà de la somme. Quand j'ai dit au-delà, c'est-à-dire quelque chose d'autre que la somme. Voilà le problème que je me pose. Et je crois que c'est le problème dont on doit se poser tous, surtout aujourd'hui. Si, alors deuxièmement, ça c'est la majeure, si la foi ne transforme pas la structure de notre intelligence, je vois que le réel, la réalité parfaite que mon intelligence saisit au point de vue philosophique, c'est l'homme et c'est la personne humaine. Or, la personne humaine est plus que ce que je peux dire sur l'intelligibilité de la personne humaine. La personne humaine ne se ramène pas seulement à une doctrine. Elle vient plus. C'est pour cela que la philosophie ne se ramène pas à la métaphysique. Il y a une philosophie humaine du travail, une philosophie humaine de l'amour d'amitié, une philosophie humaine politique, qui ne sont pas immédiatement réductibles à la philosophie première. Qui sont d'ordre pratique. De même, philosophie de la matière, philosophie du vivant, c'est pas immédiatement réductible à la métaphysique. Puisque donc, la foi ne supprime pas et ne modifie pas la structure de l'intelligence humaine. Il est donc convenable de voir si, avec cette surabondance de la foi, je ne peux pas penser un développement du patrimoine révélé d'une autre manière que par la pure intelligibilité. Est-ce que je ne peux pas regarder ce patrimoine d'une autre manière que le point de vue pur intelligible? C'est là le problème. Je crois qu'on s'inquiète tous à dire oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison de soustraire ça. Si on dit oui, il s'agit donc de comprendre comment je peux établir une analogie entre la réalité existante. Pierre. Jacques et Jean. Hein. Et Pierre suffit. Et l'intelligence. La science philosophique. Et le donné révélé. De philosophie première, saisir dans la réalité l'intelligibilité qu'il y a dans cette réalité n'est pas adéquate à la réalité. Il y a donc possibilité de regarder la réalité sous d'autres points de vue. Et c'est comme ça que sont nées les diverses formes de la pensée philosophique. Puisque la réalité existante, dans une relation intime avec l'autre. Toutes les divisions, vous connaissez, de la philosophie. L'homme est partie de l'univers. L'homme a son autonomie de vivant. Voilà donc toutes les parties diverses de la philosophie. Donc l'intelligibilité, philosophie première. À tout théologien. de la vie mystique. L'aspect personnel, l'aspect universel. Oui, ce qui est très important. La théologie scientifique, c'est l'aspect universel. L'aspect de la théologie mystique, c'est l'aspect personnel, des liens d'amour, personne à personne. Ils sont révélés, eux aussi. Puisque la révélation se fait dans une personne, le Christ. Puisque la révélation se fait dans une personne au terme, il y a donc à l'égard de cette personne quelque chose d'unique. Un lien d'amour. Jésus n'est pas seulement celui qui enseigne, il est Père. Il est source de vie. Il faut l'atteindre dans son caractère personnel et propre. J'ai donc, voyez, quatre dimensions de la théologie. Parce que quand on parle de la théologie ascétique et mystique, vous comprenez bien, l'aspect ascétique n'est pas du tout une nouvelle théologie. C'est la théologie de l'amour qui implique la purification. D'où la 16. Alors, si je réfléchis un instant à cela et les parties de la philosophie, vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, on dira un mot là-dessus.
Session d'introduction à la théologie par le père Philippe Arimont, Le 6 octobre 1992, deuxième cours.
Dans la théologie d'église. C'est un vivant qui est un tout. La communion des saints. On est un citoyen du ciel. Donc il y a une politique de l'église. C'est sûr. Et la théologie mystique, l'éthique, philosophie de l'art,
pourquoi est-ce qu'on ne rapprocherait pas la philosophie du vivant à cause de son devenir de la théologie biblique? Pourquoi plutôt
parce que la théologie biblique, on est mû par l'Esprit Saint. Le rôle de l'Esprit Saint, vous voyez, c'est un un vivant imparfait. C'est évident que c'est un vivant imparfait. C'est un vivant, mais un vivant imparfait. Alors vous pouvez mettre aussi philosophie du vivant, mais c'est l'aspect du devenir qui domine. Oui, c'est ça. C'est la pointe de celui qui est mu. L'action dans l'Ancien Testament de Dieu qui intervient est bien plus directe que dans l'Église. Si Dieu intervenait chaque fois que la barque de Pierre gauche ou va trop d'un côté, on aurait des interventions extraordinaires de Dieu constantes. Mais dans l'Ancien Testament, il y a ces interventions de Dieu. Mais le merveilleux est beaucoup plus grand dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est pour ça que certains aspirent à l'Ancien Testament. L'aspect charismatique est bien plus efficace dans l'Ancien.
Quand vous dites théologie de l'économie divine, est-ce que vous pouvez recycler
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et la théologie de l'Église. L'Église. L'Esprit Saint est plus présent dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, mais il agit beaucoup plus de manière immanente que dans l'Ancien Testament. Donc c'est la grâce sanctifiante qui domine beaucoup plus, et l'action des dons du Saint-Esprit, que l'aspect charismatique. C'est pour ça que c'est l'équilibre. C'est le gros problème, vous voyez. Le gros problème pour les charismatiques, pour nous qui regardons les charismatiques, le gros problème, c'est de voir l'harmonie et l'équilibre entre les dons du Saint-Esprit et les charismes. En gros, en très gros, les charismes dominent dans l'Ancien Testament et les dons du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. La prophétie d'Isaïe, il sera mu par l'Esprit. Dans le Christ, il y a des charismes, mais ce qui domine, c'est l'action de l'Esprit Saint. Dans l'Église, il y a des charismes, mais ce qui domine, c'est l'action de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que le renouveau charismatique, quelquefois, risque d'être un retour à l'Ancien Testament. Mais on aime de retourner à l'Ancien Testament à cause de ça. C'est un aspect fondamental, l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'aspect de la finalité qui domine. Et donc, il faut équilibrer ça. Et je crois que si on voulait faire la critique, vous voyez, critique dans le sens positif, pas négatif, la critique du renouveau charismatique, c'est de se demander si, dans le renouveau charismatique, le primat de l'action de l'Esprit Saint intérieur est toujours bien respecté. Ou si, de temps en temps, on n'insiste pas davantage sur l'aspect charismatique visible.
Est-ce que dans l'écriture, l'équilibre entre les deux ne se voit pas plus particulièrement dans les actes, par exemple ?
Oui, sûrement. Sûrement. Et dans les actes, l'action de l'Esprit Saint charismatique est encore extrêmement visible.
On est quand même assez immanent.
Voyez, et peut-être que pour nous, l'action est plus. Voyez. Qu'est-ce qui commande la théologie de l'économie divine? Il y a quand même quelques petits principes. Hein. Bon, je mettrai personnellement, je le dis ici, hein. Du Christ et tout continue le Christ, donc on est là en face de la. la mesure, si j'ose dire. Deuxième passage. L'Apocalypse. Troisièmement, les 11 premiers chapitres de la Genèse.
Que donne saint Thomas à la fin de la question 1, c'est différents sens, l'écriture littérale, sens qui regarde donc plutôt le côté de la matière. Vous avez dit que cette structure est souvent la structure même de l'intelligence humaine, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose
je vois pas exactement la question que vous posez.
À la fin de la question 1, saint Thomas donne une division des différents sens de l'écriture.
Oui, de l'écriture.
Ouais. Oui. Quel lien on peut faire entre les différentes parties de la théologie, éventuellement ces différents sens de l'écriture, est-ce que...
Oui, il joue sûrement là-dedans. Mais je ne sais pas si on peut les structurer. Si c'est à partir de ça qu'on doit structurer. Puisqu'il s'agit d'une science. Oui. Là, c'est par rapport à l'objet lui-même qu'on regarde. Vous allez me dire que la science est commandée par l'objet, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a une donnée plus immédiate pour nous, c'est que le patrimoine de la révélation nous est donné dans une histoire, il nous est donné dans une tradition, celle de l'Église qui la garde, il nous est donné comme un enseignement, il nous est donné pour l'intériorité de chacun d'entre nous, notre sanctification. Mais vous retrouverez sûrement, en regardant l'essence de l'Écriture, vous pourriez montrer que le sens mystique est littéral et il s'exprime symboliquement. Le sens enseignement, intelligibilité est propre, il est littéral et il est propre et il laisse tomber tout le symbolisme. Alors que le symbolisme existe à propos de la philosophie, de la théologie biblique et de la théologie d'Église. Oui. Et alors, est-ce que l'aspect symbolique est lié à l'aspect charismatique? Vous vous posez la question. Oui, il y a des tas de questions qu'il faut se poser là-dessus. Pas si commode. Mais je suis d'accord qu'il y a sûrement un lien. Il faut découvrir. Oui. Je ne crois pas qu'il y a d'autres dimensions. Je crois pas. Et je crois que la théologie, vous voyez, la philosophie politique, la philosophie de l'art qui est impliquée dans la philosophie politique, et la philosophie éthique, sert pour le développement de la théologie de l'Église et pour la théologie mystique. Alors, anecdote. Quand on m'a demandé à Fribourg d'enseigner le cours de théologie ascétique et mystique, en plus de la philosophie, parce que le professeur, l'ancien, était remplacé par un autre, c'est le père Nicolas, c'est le professeur de dogme, qui a refusé d'enseigner la théologie ascétique et mystique. Alors ça restait pendant. Alors on m'a demandé de l'enseigner, moi j'ai dit très bien, je ne demande pas mieux. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand on enseigne, on est obligé d'avoir les choses beaucoup plus précises. C'est sûr. Je me suis posé la question, quelle est, alors, au point de vue critique, quelle est la raison formelle de la théologie ascétique et mystique, donc la théologie mystique, la ratio formalis. On ne peut pas enseigner si on ne voit pas la raison formelle. Est-ce que saint Thomas prend tout le temps à la suite d'Aristote en disant par exemple que la quantité est regardée autrement par le philosophe, autrement par le mathématicien. Le temps est regardé autrement par l'astronome que par le philosophe. C'est pas le même temps. Le temps astronomique, c'est pas le temps de la petite Terre. On confond tout le temps, tu vois. Parce que vous donnez les notions astronomiques comme si c'était les notions du temps. Non, c'est équivoque. Donc il faut savoir quelle est la raison formelle de la théologie mystique, ce qui est très difficile. Et par le fait même, la raison formelle de la théologie scientifique et des autres parties de la théologie. Alors j'ai écrit à ce moment-là au cardinal Philippe, que je connaissais bien et qui enseignait à Rome déjà depuis 15 ans la théologie ascétique et mystique. Alors je posais une colle, je pouvais le faire. J'ai dit, quelle est la raison formelle de la théologie ascétique et mystique? Il m'a répondu, j'aurais dû garder la lettre, il m'a répondu, je ne sais pas. Alors j'ai répondu, mais vous l'enseignez depuis 15 ans. Alors comment pouvez-vous enseigner sans avoir la raison formelle? On dit, oh, je m'en tire comme je peux. Je fais quelque chose de plus concret que dit saint Thomas, c'est-à-dire je l'applique de traiter ensemble. Ça n'avance pas grand-chose. Le père Garrigou-Lagrange a enseigné les trois âges de la théologie mystique. Il a pris par les trois âges, les commençants, les progressants et la vie unitive. Or, le père Garrigou dit que la théologie mystique, c'est l'application à un cas concret des conclusions de la théologie scientifique. Parce que j'avais lu le père Garrigou, vous comprenez que ça, c'est un peu terrible. Ça, c'est la scolastique décadente. Et au fond, le père Philippe, le cardinal Philippe, restait un peu dans cette même perspective. Il appliquait la théologie scientifique à tel ou tel cas. Or, les conclusions scientifiques sont beaucoup moins pratiques que les principes de foi. Ils sont pas pratiques du tout. C'est pas en appliquant la grâce et un habitus antitatif que vous allez comprendre concrètement tous les problèmes de la grâce chrétienne et résoudre le problème de savoir si le sacerdoce des fidèles est fondé sur la grâce sanctifiante ou sur le baptême. Un des problèmes intéressants, c'est qui intéresse le père Marie-Alain, qui m'intéresse aussi, et où on se dispute ensemble. Les disputes amicalement, on cherche, c'est-à-dire on cherche pour voir exactement. C'est pas en disant que la grâce est un habitus antitatif que ça va vous éclairer beaucoup. Aucune conclusion de la théologie scientifique de saint Thomas même n'est prédicable. N'allez pas faire un sermon, mes chers paroissiens. Aujourd'hui, nous allons creuser un peu ce que c'est que la grâce et nous allons voir comment saint Thomas, le grand théologien, nous dit que c'est un habitus sanctitatif. Les gens regarderaient, tiens, il devient un peu fou, il y a quelque chose qui va plus. Il faut prendre saint Thomas pour prêcher directement. Non, non, c'est impossible. Alors, il faut découvrir à partir de la parole de Dieu. Puisque la théologie n'existe qu'en fonction de la foi en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui conduit au mystère. Or, la parole de Dieu est la parole de l'époux adressée à l'épouse. Donc c'est une parole affective qui relève d'une connaissance affective. C'est une parole personnelle à une autre personne. C'est l'alliance de l'époux et de l'épouse se fait par la parole de Dieu. Cantique des cantiques l'exprime de façon remarquable. Et l'analogue du cantique des cantiques dans le Nouveau Testament, je crois que c'est l'évangile de saint Jean. C'est l'analogue. Demeurer. Ça c'est l'époux qui dit ça à l'épouse. Il faut que tu demeures chez moi. Quand c'est la période des fiançailles, il faut que tu passes, et puis il faut que tu demeures. Et encore quand on demeure, alors c'est vraiment le mystère de l'amour, dans le sens le plus fort. Donc, la parole de Dieu implique, elle, un enseignement. C'est sûr, mais la parole de l'époux n'est jamais un enseignement. Elle présuppose un enseignement, mais c'est bien plus qu'un enseignement, c'est l'ouverture du cœur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à n'importe qui, et que vous ne pouvez pas le faire sous le point de vue du commandement. L'ouverture du cœur, on le fait à celui qu'on a choisi pour être pour nous l'instrument de Dieu. Pour notre vie. Donc c'est un père spirituel. Ou une mère spirituelle. Je ne crois pas qu'on puisse dire que tout prieur et toute prieure religieuse exige l'ouverture du cœur. Je ne crois pas. Parce que l'ouverture du cœur est au-delà du fort du prieur. Si on peut le faire, très bien, mais on ne peut pas exiger. Un prêtre ne peut jamais exiger à quelqu'un, alors vous allez ouvrir une opération du cœur ouvert, hein, puis je vais pouvoir lire là, exactement ce qu'il y a dedans. On ne peut pas. Il faut que le client demande. On ne peut pas faire la chose. Alors, voyez, là vous voyez tout de suite la différence. Dans la parole de Dieu, il y a un enseignement. Dans la parole de Dieu, il y a un secret. Il faut découvrir le secret. Et saint Thomas reconnaît ça quand il dit qu'il y a diverses prédications. La prédication au peuple de Dieu et la prédication aux âmes consacrées. On livre les secrets. Donc la parole de Dieu est un secret pour chacun d'entre nous. Et saint Thomas à ce moment-là dit que la parole de Dieu spire l'amour. Donc c'est la parole de Dieu qui conduit au mystère d'amour. Et l'amour de l'époux pour l'épouse. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la théologie scientifique, c'est la parole de Dieu qui conduit au mystère, mais au mystère du Verbe. Dieu est vérité. théologie scientifique, Dieu est vérité et toutes les paroles de Dieu impliquent un enseignement conduisant à la vérité. Toute la théologie mystique est orientée vers Dieu amour. Dieu est lumière et amour. Et toutes les paroles qui me conduisent vers le mystère de Dieu sont des paroles qui sont des secrets. Point de vue affectif. Mais le concept est le fruit d'une connaissance scientifique, spéculative. Et le secret est le fruit d'une connaissance affective. Il y a donc une analogie entre le concept et le secret. Au niveau théologie scientifique, on saisit les rationes. Au niveau de la théologie mystique, on saisit les secrets. Ceci pour bien préciser quelle est la raison formelle de la théologie mystique. C'est la parole de Dieu en tant qu'elle provient de l'époux qui communique à l'épouse son amour. C'est la raison formelle quand vous lisez le Cantique des Cantiques. Vous savez très bien que si vous lisez le Cantique des Cantiques d'un point de vue purement historique, vous direz chant d'amour humain. Ça a été dit. L'Église n'a pas condamné. Et puis si vous voulez vraiment entrer dans le Cantique des Cantiques, vous dites, ah, c'est Marie et Jésus à la croix. Et vous essayez de saisir ce qu'il y a de tout à fait propre à cette raison formelle. Voyez. Donc, c'est la même parole de Dieu, mais saisie dans un aspect nouveau. La parole de l'époux pour l'épouse. Et toute parole de l'Écriture, c'est la parole de l'époux pour l'épouse. Quand la petite Thérèse de l'enfant Jésus explique la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu pour elle, petit enfant de Dieu. L'ami. C'est la parole de l'ami pour son ami. Donc, la raison formelle de la théologie mystique, c'est de saisir comment Dieu révèle son mystère d'amour et comment il le communique. C'est cet aspect de l'amour divin qui est la raison formelle de la théologie mystique. Tandis qu'au contraire, la raison formelle de la théologie scientifique, c'est le point de vue de l'intelligibilité de la parole de Dieu. Sa vérité. Son intelligibilité parfaite, sa vérité. Sa lumière. Quelle est la raison formelle de la théologie biblique? C'est la parole de Dieu donnée à travers une histoire. Quelle est la raison formelle de la théologie de l'Église? C'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints, dans la bonne terre, dans le cœur de Marie, et dans le cœur des saints. C'est la bonne terre, c'est la parole qui fructifie et qui conduit au royaume de Dieu, royaume du Christ, qui est un royaume de prêtres. Oui.
La parole de Dieu, elle implique aussi les gestes.
La quoi?
La parole de Dieu, elle implique aussi les gestes.
C'est sûr. La parole de Dieu implique les gestes, surtout quand il s'agit d'amour. Et parce que c'est l'amour, l'amour s'exprime plus par mode symbolique et par geste. Et c'est pour ça que je serai attentif à ça. C'est la conséquence immédiate. Oui.
Et au niveau de la vérité, hein? Au niveau de la vérité,
beaucoup moins. La vérité, ça n'exprime pas beaucoup. voyez, ensuite, parce que je crois que la théologie scientifique libère une théologie mystique qui avant était toujours liée à des tas d'autres choses. On va aller beaucoup plus loin. Et elle libère une théologie de l'histoire du peuple de Dieu à travers la parole et les gestes et les guerres. Dans la théologie biblique, les guerres jouent quelque chose, hein, anathème. Hein. On passe au fil de l'épée. C'est quand même quelque chose, ça. Il s'agit d'expliquer ça. Il s'agit d'expliquer les grands tournants. Vous voyez, l'alliance avec Abraham. Parce que c'est l'alliance avec Abraham, ça commence avec l'alliance avec Abraham. Avant, il n'y a pas de théologie biblique. L'alliance avec Abraham. L'alliance avec Isaac et Ismaël qui est mis sur le côté. L'alliance avec les 12 tribus d'Israël, voyez, tombées successivement. Et voyez toutes les séparations qui se font. À ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant de regarder ça comme sous cette vision-là. Il y a des choses que vous ne voyez pas en théologie scientifique et qui apparaissent en pleine lumière en théologie mystique ou en théologie biblique ou en théologie d'Église.
Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites que la raison formelle de la théologie de l'Église, c'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints? Quelle différence avec la raison formelle de la théologie mystique?
C'est le vécu. Quelle différence entre le point de vue de l'être qui existe et le vécu? L'Église, c'est le vécu du patrimoine divin. Et la théologie d'Église, c'est de voir ce vécu du patrimoine divin. Et quand l'Église est euphorique, et quand l'Église vit vraiment avec des saints, le vécu est adéquat à la réalité. Et quand il n'y a plus de saints, le vécu est très bas. Les réservoirs sont vides. Les crises dans l'Église, c'est quand le vécu n'est plus adéquat aux données. Ceci aussi bien au niveau du dogme qu'au niveau des pratiques.
On a dit que ce qu'il y a de plus grand dans la vie mystique, c'est de dire Abba Père. Est-ce que c'est. Il prend ça du côté de. C'est en théologie scientifique qu'il dit ça, ou quelle est la relation...
Mystique, voyons.
Mais qu'est-ce qui est le plus ultime du point de vue mystique? C'est la relation spontanée ou filiale?
Au point de vue mystique,
qu'est-ce qui est le plus ultime? C'est la relation spontanée ou filiale?
Filiale.
Et pourquoi c'est pas cette raison formelle qu'on a gardée pour la théologie mystique?
Mais parce que celle-là, c'est par rapport à la parole. Mais le mystère du Père, c'est pas le Père qui parle. Le Père, Pater Tatshubat. Tout le grand serment de Bossuet sur Saint Joseph. Pater Tatshubat. Le Père se tait. On voudrait qu'il parle de temps en temps. Il se tait comme Père. Source d'amour. Oui. Tandis que l'époux parle. Ma bien-aimée. Ma toute belle. Vous n'avez pas entendu le Père dire ça? Pas le Père qui dit ça.
Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il dit quand même celui-ci est mon fils bien-aimé.
Ah mon fils, le bien-aimé, le fils. Le fils, ah tout à fait, ça c'est le Père. Bien-aimé, l'agapétos. Et c'est le premier moment, si vous regardez, c'est le premier moment historique où Agapé intervient dans la révélation. C'est pour Agapetos, c'est le bien-aimé. Ce qui vous fait comprendre le côté très réaliste et très concret de la théologie mystique. Ça regarde les hommes, et ça regarde le Fils. Je crois qu'au-dessus de tout, vous voyez, c'est l'alliance. Vado ad patrem. L'alliance pour ça, c'est avec Jésus. Et Jésus, nous prend dans son unité pour nous remettre au Père. Et c'est le Vado ad Patrem qui est ultime. Mais au point de vue théologie, la structure de la théologie mystique se fait autour de l'alliance pontiale et d'amitié. Mais ceci en vue du Père. Oui. Ici, nous avons cherché la raison formelle, point de vue de la connaissance. Mais c'est toujours la finalité qui est dernière.
En théologie mystique, si on étudie des textes de l'Ancien Testament, ce sera forcément avec l'éclairage du Nouveau, alors.
C'est sûr.
Parce qu'il faudra toujours...
Mais c'est toute la différence entre une théologie qui lit l'Ancien Testament et l'exégète. Avez-vous le droit de lire l'Ancien Testament dans la lumière de l'Ancien Testament? Non. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes chrétien. Vous savez bien ce qui est arrivé. C'était évidemment, vous n'avez pas connu ce stage-là. Mais moi, je l'ai connu. Un converti de Claudel, je ne le nomme pas, parce qu'il y en a beaucoup alors, il se perd dans les sables de la mer. Un converti de Claudel qui est devenu prêtre, qui s'occupait des étudiants et des étudiantes à Paris. Et alors il avait un groupe d'étudiants et d'étudiantes. Il leur a dit, nous allons prendre l'écriture depuis le début, en la regardant pour elle-même, l'Ancien Testament, pour voir si le Christ que nous adorons et que nous aimons est bien le Christ annoncé par les prophètes. Et pour ça, critique, lire l'Ancien Testament pour lui-même. D'abord, c'est impossible. Mettez-vous dans la peau d'un Isaïe et de celui qui a écouté Isaïe. Ou Amos et celui qui a écouté Amos. Je ne sais pas quelle tête il devait faire. Bon, alors il a fait ça. Quel a été le terme de son enquête? Il est devenu marxiste. Il a épousé sa secrétaire. Et ça a fait beaucoup de pétards à ce moment-là. Vous avez beaucoup de main. Vous voyez, c'est un petit exemple extrêmement significatif. Pouvons-nous lire l'Ancien Testament comme Ancien Testament? Mais non, on perd du temps. Il a sûrement une bonne intention, mais il a perdu du temps. Et quand on perd du temps, le démon nous fait voyager à droite et à gauche. On n'a pas le droit de perdre du temps. On n'a pas le droit de lire l'Ancien Testament pour lui-même. C'est pour ça que l'exégèse qui veut lire l'Ancien Testament pour elle-même, pour moi, elle n'est pas chrétienne. Je n'ai pas le droit de faire ça. Tout l'Ancien Testament est en vue du Christ. Et il est pour le Christ et pour l'Église. Vous voyez, ça devient de la science. Alors là, c'est le dernier problème qui était les rapports entre la théologie et l'exégèse. Là, vous touchez juste le point. Au point de vue science, je peux regarder un texte d'Isaïe en essayant de le comprendre dans son contexte. C'est scientifique. Ce n'est plus théologique. L'exégèse se sert de sciences qui sont des sciences humaines et qui ne sont pas des sagesses. Or, seule la sagesse peut coopérer au patrimoine révélé. Je sais bien que c'est terrible de dire ça, parce que des quantités d'exégèses iront non, c'est pas vrai, mais pourtant, pour moi, c'est très net. Pourquoi? Parce que la science reste univoque, elle n'est pas analogique. Et nos concepts sont analogiques quand ils touchent le point de vue ultime, Dieu. Alors ils sont nécessairement analogiques. Tandis qu'autrement, avant, la science est univoque. Elle est quantitative. Elle dépend de même la science historique. C'est univoque. Or, je ne peux pas me servir d'un concept univoque par rapport à la parole de Dieu. Oui. Ça va très loin, ça. Hein. Mais je crois crois que là vous le saisissez tout de suite. Vous saisissez tout de suite que l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas, au point de vue théologique, le regarder pour lui-même. La théologie biblique est tout entière ordonnée au mystère du Christ. Et je peux très bien prendre comme autre principe de la théologie biblique ce que Saint Jean Eudes dit, toutes les prophéties d'Ancien Testament qui regardent Jésus regardent Marie, y compris sans Marie. Traiter la vision de théologie biblique sur Marie. Toutes les femmes de l'Ancien Testament qui sont proclamées nous disent quelque chose de Marie. Vous voyez, ça c'est la théologie biblique pour moi. Tandis que si je regarde uniquement Isaïe pour lui-même, exégèse, c'est la science. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et quand on prend ça comme un absolu, on se trompe. Et c'est pour ça que la remarque de tout à l'heure serait très intéressante, de bien comprendre que le sens littéral de l'écriture se comprend du niveau théologique. Voyez ? Tandis qu'on a voulu comprendre le sens littéral d'un point de vue scientifique. Alors si on comprend le sens littéral d'un point de vue scientifique, c'est univoque. Si on comprend du côté sapiencial, alors c'est analogique. Et on comprend que le sens mystique,